chapitre 13, où il est encore parlé de vie de Gousset. L'idée ne me vint pas que le capitaine Olivier de Raguenel pût se moquer de moi, tant sa belle et intelligente figure peignait la bonne foi. « Le brave bourgeois de Vitré, reprit-il, qui tient la tutelle de mademoiselle de Bois-le-Roi, est retourné en Bretagne. Monsieur Thérèse du Coudray demeure seul chargé de sa nièce. « Mais, objectai-je, vous savez bien que je suis sans fortune. Hé hé, fit-il, la bague de chanvre. » Je le regardai pour voir s'il parlait sérieusement. À l'heure qu'il est, je n'en sais encore rien. Il m'aida fort obligeamment à repasser mon frac et reprit. L'occasion est bonne. Monsieur du Coudray est venu voir son frère, l'abbé Thérèse, ce soir, pour soumissionner je ne sais plus quelle ferme. Nous allons le trouver au salon et vous lui ferez votre compliment. J'eus un peu la chair de poule, mais je gardai une contenance passable. Auprès de ce diable de garçon, il était impossible de manquer tout à fait le courage. Il devina mes craintes pourtant, car il me dit « N'ayez pas peur et parlez haut. Calotte à papa, il faut au moins que votre corde de pendu serve à quelque chose d'honnête. » Les deux frères se trouvaient justement réunis dans la chambre où j'avais eu mon entrevue avec Monsieur de Sartines. Ils occupaient notre embrasure et se disputaient sans gêne aucune comme deux crocheteurs. Ce pachyderme d'abbé remuait les bras avec une violence burlesque et montrait le poing à son frère qu'il appelait bourreau, coquin et le reste. Au bout de 3 ou 4 minutes, ils se séparèrent, les meilleurs amis du monde, et je suppose bien que ni le roi ni ses sujets ne gagnèrent à cet accord entre les deux loups. Monsieur Thérèse du Coudray n'avait pourtant rien des féroces allures du contrôleur général. C'était un assez bel homme, plutôt maigre que gras, des jambes flûtées, un visage bien découpé, mais muni du ventre le plus imprévu qui puisse surprendre son homme. Ce ventre existait en dehors de l'embonpoint général, comme une loupe s'établit sur un crâne ou comme une verrue fait fleur au bout d'un nez. Il arrondissait son petit ballon pointu sans transition aucune, excroissance obèse et tremblante, égarée entre une poitrine de chameau et des jambes de cerf. Monsieur du Coudray avait coutume d'y appuyer ses deux mains avec une tendre complaisance. On voyait bien qu'il y tenait. C'était sa gloire. Le résultat de sa conférence poissarde avec l'abbé le laissait évidemment de bonne humeur. « Ah ah, monsieur de Raguenel, dit-il en nous apercevant, apportez-vous des nouvelles de notre folle? Vous savez chiffrer un pot de vin raisonnable et on vous la passe au cou. » Il battit le tambour sur sa petite bedaine en riant tout seul de son excellente plaisanterie. Raguenel s'approcha de lui et prononça quelques mots à son oreille. « Eh bien, pourquoi pas ? » s'écria Monsieur du Coudray en se tournant vers moi. « Elle l'aime, vous dites ? Ces prudes ne sont jamais sans aimer quelqu'un, ou quelques-uns, sapeurs-jeux. Elles vont bien à Vitré de Bretagne. Monsieur de Kéramour, je vous salue, monsieur. Monsieur de Kéramour est bien tourné, oui. Son nom met l'eau à la bouche. Notre Hermine est, parbleu, riche pour deux, et pour trois aussi, eh, capitaine ?» Raguenel ne broncha pas. Monsieur du Coudray arrangeait sur l'éminence de son ventre une magnifique chaîne d'or qu'il avait. Son talent était de la disposer en 8, en 3, en câbles roulés, en spirales simples ou contrariées, enfin de 100 manières ingénieuses et diverses qui prouvaient son savoir. « Chevalier, reprit-il en clignant de l'œil à mon honorable cousin et ami, ce monstrueux idiot de Pélédou aurait dû vous exterminer avec son tromblon, ce qui prouve bien la vertu de votre amulette. C'est une dot, cela. On n'est pas un mendiant quand on apporte à sa femme pour cadeau de noces toutes les banques de la ferme de jeu. » J'interrompis pour dire, « Si j'ai l'honneur d'obtenir la main de mademoiselle de Bois-le-Roi, je m'engage à ne plus jouer jamais. » « Ah, par exemple !» s'écria Monsieur du Coudray, qui balaya sa chaîne comme on rafle le 5e coup aux osselets. « Voilà ce dont je me balaye. La question est de savoir ce que vous offrez comme épingle. Je n'offre rien. Ah bah, le chevalier, dit Raguenel intervenant, consentirait, je le suppose, à paraffer le compte de tutelle à Tâton. Ouais, fit monsieur du Coudray avec colère. Pour qui nous prenez-vous, jeune homme? Les comptes de tutelle ne me regardent pas. Faites rendre gorge tant que vous voudrez aux bourgeois de Vitré. Moi, je veux mes étrennes. Il voyait parfaitement à quel point son cynisme me répugnait. Cela ne l'inquiétait point. Monsieur de Raguenel ne parlait plus. « Je suis à toi, vicomte !» cria tout à coup monsieur du Coudray à la cantonade, comme on dit au théâtre. Je me tournai du côté que me désignait son regard, mais je ne vis personne. « Mes enfants, reprit-il, je m'attarde ici à des bagatelles. J'ai connu bien des oncles, mais j'en cherche encore un qui porte autant d'intérêt que moi à sa nièce. Tâchons de nous bien comprendre. Je ne demande rien sur ce qui lui appartient, filons. Je n'ai qu'à me baisser pour prendre. Non, c'est une épreuve que j'impose au fiancé, un témoignage de tendresse que je lui demande. En conscience, m'approuverait-on de jeter cette chère proie en pâture à un olibrius qui reculerait devant un sacrifice de 100 000 écus? Il faut bien que je sois sûr de son affection à ce fiancé-là. Nous ne lui demandons pas la mer à boire, une simple preuve de bonne volonté. Mais tout le monde n'a pas 100 000 écus, objecta Raguenel. « On les loue !» répliqua monsieur du Coudray, qui planta un coup sonore sur son ventre, « à moins qu'on ne préfère les gagner. Messieurs, mon désintéressement ridicule et le dévouement que je porte à l'État diminuent tous les jours mon patrimoine. Je dépense des sommes folles en actes de bienfaisance et j'ai une petite maison. Réfléchissez, j'aurais dû exiger le double en conscience. Je vous donne jusqu'à demain matin. » Monsieur du Coudray nous fit un gracieux signe de tête et s'éloigna. Je me tournai vers Olivier de Raguenel. Il avait un doigt sur sa bouche. Son geste m'ordonna de le suivre. Nous traversâmes sans bruit toute la chambre et nous atteignîmes la porte par où le frère du ministre était sorti. Celui-ci était encore dans la galerie et s'y promenait avec une personne que je ne pouvais voir. « C'est le vicomte !» me dit Raguenel à voix basse. « Quel vicomte ? Celui à qui monsieur du Coudray a dit tout à l'heure « Je suis à toi ». Et que nous importe ? » demandai-je. « Ils vont passer sous le quinquet, » répliqua Raguenel. « Regardez bien. » La lumière les frappa. J'eus peine à retenir un cri. Raguenel m'attira en arrière en murmurant. « L'avez-vous reconnu ? C'est le vicomte de Saint-Pierre. Il a encore un autre nom. » « Il faut que mademoiselle de Bois-le-Roi quitte le couvent des Feuillantines, et elle ne peut le quitter que mariée. La croyez-vous donc en danger ?»« Je suis sûr qu'elle est en danger. »« En danger de quoi ?»« De mort. » »« Et si je pouvais donner les 100 000 écus à cet homme, m'accorderait-il réellement la main d'Hermine ?»« Peut-être. Il aura les 100 000 écus demain matin. » Nous causâmes encore quelque temps, Olivier et moi. Je lui parlais à cœur ouvert. Pour me faire moins coupable, je revins sur ma première nuit de Paris et ma singulière aventure de la rue des Feuillantines. Je dépeignis minutieusement cette masure de méchant aspect située en face du couvent et dans laquelle on festoyait à 1 heure après minuit.
« Et vous ne reconnûtes personne ?» me demanda Raguenel.
« Personne sur le moment. Plus tard, il me sembla que la voix de l'homme qui était venu dénoncer ma présence appartenait à quelqu'un de chez nous, un coquin appelé Grippe-Soleil.
« Vous êtes sûr que votre nom fut prononcé ?»«
Très sûr.
N'entendîtes-vous point celui de mademoiselle de Bois-le-Roi ?»«
Non, il m'eût frappé bien autrement que le mien propre. Quel rapport peut-il y avoir entre ces coquins-là et Hermine ?» Le capitaine restait toujours pensif.
« En fin de compte, me dit-il au lieu de répondre, « je ne regrette plus de vous avoir donné ma potion à Laval. Vous valez mieux que je ne croyais, et peut-être est-ce un bien que vous n'ayez pas suivi tout seul cette histoire de bandit. Vous seriez maintenant logé au même étage que le pauvre jeune monsieur Yves de Tréverne. Vous comptez jouer cette nuit ? Comment aurais-je les 300 000 livres sans cela ? Où comptez-vous jouer ? Au tripot du chevalier Zeno, ambassadeur de Venise ? Mais au nom du ciel, un mot encore ! Je donnerais 3 palettes de mon sang pour avoir vu seulement le visage de ce brigand qu'on nomme Vie de Gousset. Il y a des moments où je crois deviner.
Chevalier,
interrompit Olivier de Raguenel en me tendant la main pour prendre congé.
On n'a pas besoin d'aller si loin que la rue Saint-Jacques pour le rencontrer.
Que voulez-vous dire ? Il me serra la main fortement.
Au temps où nous vivons, répliqua-t-il, les bandits sont partout.
Ne perdez pas courage, cependant. Nous avons un atout parmi vos cartes. Le Saint-Pierre est véritablement amoureux d'Hermine. Sans cela, elle serait morte, puisqu'il est son héritier.
À demain.